Vous écoutez, on lit pour vous.
Oserez-vous l'hypnose? Un texte de Frédéric Charret, paru à l'automne 2024 dans le magazine Virage. L'hypnose occupe une place grandissante dans la culture populaire, notamment en raison de son utilisation sur scène. Bien que divertissante et légitime, ses prestations contribuent néanmoins à renforcer certaines incompréhensions, inquiétudes et fausses idées qui limitent la progression d'une technique qui a pourtant le potentiel d'offrir de nombreux bienfaits pour le corps et l'esprit. Des mythes tenaces. L'hypnose est utilisée de manière thérapeutique depuis des lustres, mais elle demeure encore méconnue de nos jours. L'un des mythes les plus tenaces. La personne hypnotisée sera sous le contrôle de celle qui l'hypnotise, qui pourra alors en profiter pour lui faire dire, croire ou agir comme bon lui semble. On ne pourra jamais imposer à quelqu'un de faire quelque chose contre son gré, assure le docteur David Auguez, psychologue, chercheur et président de la Société québécoise d'hypnose, SQH. Les gens restent toujours en contrôle. Autre crainte. De rester piégé dans l'hypnose et de ne pas pouvoir en sortir quand on le souhaite. Vous avez toujours conscience que vous êtes dans le bureau du thérapeute, poursuit le spécialiste. Si une personne entre en trompe dans la salle, vous sortirez de transe et serez de nouveau présent. Il y a toujours un niveau d'alerte. En raison de ces fausses perceptions, beaucoup de gens rejettent d'emblée une avenue qui pourrait pourtant leur procurer des bénéfices. On a donc vraiment un intérêt à démystifier l'hypnose, soutient le docteur Auguez. Un phénomène naturel. Le processus peut varier, selon les différentes approches, mais en bref, il s'agit de guider le sujet vers un état de conscience modifié, ECM, c'est-à-dire quelque part entre le sommeil et la pleine conscience. Cela n'a rien de mystique ni d'ésotérique, mais repose plutôt sur un phénomène naturel, explique le docteur Auguez. Il nous arrive tous de partir vers un ECM, dans un état de rêverie. Par exemple en auto, lorsque notre corps conduit normalement, mais que notre esprit semble ailleurs, ou lorsqu'on admire les flammes dansantes d'un feu de camp. Concrètement, la séance d'hypnose commence par une induction hypnotique, soit le processus menant vers un ECM. Cela peut se faire à travers des techniques de relaxation, de visualisation ou de concentration. Dans cet état de transe, l'attention est concentrée tandis que la conscience périphérique est réduite, comme l'explique l'Association américaine de psychologie APA. La personne, ainsi dépourvue de sa rationalité habituelle, devient alors plus ouverte aux suggestions. Une fois que la personne est dans un état d'absorption à la limite de l'endormissement, on va commencer à faire des suggestions pour l'envoyer dans un imaginaire qui lui convient, explique le docteur Auguez. Prenons l'exemple d'une personne qui souffre d'aérophobie. Dans son imaginaire, on peut lui faire un voyage en avion. Comme elle est dans un état de relaxation, son corps n'est pas en train de vivre une émotion négative liée au vol. Bien qu'on puisse sembler passif sous hypnose, on éprouve des sensations et des émotions. On voit des images, on revit des souvenirs, on peut même parler. Ça permet de perméabiliser la frontière entre le conscient et l'inconscient, explique Sylvain Lefebvre, directeur général de l'École d'hypnose thérapeutique et médicale, EHTM. Ça donne accès à des zones qui sont en nous, mais qu'on ignore. La personne qui hypnotise utilise ce bagage intérieur pour nous guider vers certaines modifications sur le plan de la cognition, des perceptions et des comportements, et ce, en fonction des objectifs établis au préalable. À la fin de la séance, environ 45 minutes, on nous mène vers un retour à l'état de conscience ordinaire. À quoi ça sert? L'idée, c'est d'utiliser ses pensées afin de gérer la détresse émotionnelle, de soulager des symptômes physiques désagréables ou pour aider à changer certains comportements. Le champ des applications est vaste, allant de l'insomnie au stress post-traumatique, en passant par le manque de confiance, les manifestations de l'anxiété, les dépendances, l'éjaculation précoce, la dépression, l'épuisement professionnel, les symptômes du syndrome du côlon irritable, etc. Il y a aussi une grande utilisation de l'hypnose dans la gestion de la douleur procédurale. Un peu moins au Québec, mais en France et en Belgique, c'est très très utilisé, fait valoir le docteur Oguez, qui est aussi professeur au département d'anesthésiologie et de médecine de la douleur de l'Université de Montréal. L'hypnose permet aux médecins qui l'utilisent de diminuer la pharmacologie et de donner des produits sédatifs moins importants. Dans le cas de la douleur chronique, il est aussi courant d'enseigner des techniques d'auto-hypnose. Vous écoutez « Oserez-vous l'hypnose », un texte de Frédéric Charret, paru à l'automne 2024 dans le magazine Virage. Est-ce que ça fonctionne? L'hypnose n'est pas une panacée. Mais plus elle est étudiée, plus les preuves scientifiques de son efficacité s'accumulent. Dans les dernières années, des recherches rigoureuses ont suggéré, entre autres bienfaits, que cette technique permet de réduire les bouffées de chaleur à la ménopause, d'atténuer les troubles du sommeil et d'améliorer la gestion du stress. D'autres études récentes ont indiqué le fort potentiel de l'hypnose pour soulager l'anxiété et les symptômes de la dépression, surtout lorsqu'elle est conjuguée à d'autres traitements comme la psychothérapie. En 2020, une méta-analyse de 42 études contrôlées sur l'utilisation de l'hypnose pour soulager la douleur indiquait que les personnes hypnotisées ressentaient 73 % moins de douleur que les participantes et participants témoins. Des recherches en neurosciences effectuées ici à Montréal ont montré avec des tests d'imagerie par résonance magnétique que le cerveau réagit quand on fait des suggestions de diminution de douleur, ajoute le docteur Oguez. Qui peut hypnotiser? Une simple recherche sur le web permet de constater l'ampleur de l'offre en matière d'hypnothérapie. Comment s'y retrouver? L'hypnose, c'est une approche complémentaire aux approches classiques, fait valoir le docteur Oguez. Il insiste donc sur ce point. Il vaut mieux consulter une personne professionnelle associée à un ordre, formée à l'utilisation de l'hypnose et qui travaille dans les limites de son expertise professionnelle. Il y a beaucoup de gens qui s'affichent en tant qu'hypnologues ou hypnothérapeutes, mais qui ne sont pas des professionnels de la santé. Si vous ne cherchez que du coaching ou de la préparation sportive, ça peut être correct, parce qu'il n'y a pas d'aspect psychothérapeutique. Mais si vous avez envie de traiter un problème d'anxiété ou de traumatisme, par exemple, vous allez voir un psychologue. Le site Internet de la SQH présente d'ailleurs une liste de dentistes, médecins et psychologues formés pour utiliser l'hypnose dans le cadre de leur discipline. Il est aussi possible de choisir l'hypnose comme critère de recherche dans le répertoire web de l'Ordre des psychologues du Québec, OPQ. Néanmoins, rien n'empêche des personnes qui exercent en naturopathie ou en médecine alternative, d'offrir des services d'hypnothérapie. Sylvain Lefebvre, de l'EHTM, n'y voit pas de problème. Bien au contraire, si les praticiennes et praticiens ont été adéquatement formés. L'hypnothérapeute possède une structure et des connaissances thérapeutiques et, en même temps, des connaissances et des compétences hypnotiques. Il va amalgamer les deux pour en faire une approche qui est unique, affirme l'infirmier clinicien à la retraite. Il ajoute qu'il n'est pas rare qu'un hypnothérapeute travaille en collaboration avec une ou un professionnel de la santé. Dans une entente signée en 2015, l'OPQ a convenu que l'hypnothérapie peut être pratiquée et offerte au public par quelqu'un qui n'est pas psychothérapeute. Le document identifie 6 problématiques de santé mentale pour lesquelles la praticienne ou le praticien en hypnose pourrait offrir ses services, soit la gestion de la douleur, l'insomnie, la dépendance et les habitudes de vie, les phobies, l'anxiété, la dépression, ainsi que l'épuisement professionnel. Dans tous les cas, toujours selon cette entente, l'hypnothérapeute non psychothérapeute ne peut traiter ou guérir de telles problématiques, ni le prétendre ou le laisser entendre. Il ne peut non plus vous recommander d'abandonner d'autres traitements médicaux. En revanche, il doit viser à donner à ses clients des outils pour mieux composer avec les symptômes ou manifestations d'un problème ou d'une maladie, et ce, en tenant compte de leur vulnérabilité. Dans les cas complexes, il doit s'assurer de référer sa clientèle vers des services professionnels reconnus. Se renseigner. Il est difficile d'apprécier en amont le niveau de compétence d'une ou d'un hypnothérapeute, mais avant de prendre rendez-vous, M. Lefebvre suggère de valider un certain nombre d'informations, dont le nom de l'école de laquelle la personne est diplômée et le nombre d'heures de formation qu'elle a reçues, minimalement 1200 heures selon lui. Il faut aussi s'assurer qu'elle soit membre d'une association, comme l'Association nationale des naturopathes, ANN, ou le regroupement des intervenants et thérapeutes en médecine alternative et complémentaire, RITMA. Il suggère aussi de poser des questions sur le déroulement de la séance, ainsi que sur son approche thérapeutique et hypnotique. Si elle ne peut pas répondre sur qui elle s'appuie ou sur son approche, des lumières rouges doivent s'allumer, conclut M. Lefebvre. L'hypnotisabilité. Est-ce que tout le monde est hypnotisable? Presque, répond le Dr David Oguez, mais à divers degrés. Selon lui, de 15 à 20 % de la population aurait un degré élevé d'hypnotisabilité, soit l'aptitude d'entrer en état de transe. Les gens ayant un degré faible se recenseraient dans la même proportion, tandis que les autres se situent quelque part entre les deux. Le spécialiste précise qu'il n'y a pas du tout de restrictions liées à l'âge, ajoutant que des personnes de plus de 80 ans font de l'hypnose avec lui à sa clinique de douleur. Cependant, certains troubles cognitifs ou du langage peuvent rendre ce processus beaucoup plus difficile, voire impossible. C'était « Oserez-vous l'hypnose », un texte de Frédéric Charret, paru à l'automne 2024 dans le magazine Virage.
« 16 détenus devant moi », un texte de Stéphanie Kitempo, paru le 2 août 2024 dans la presse. Stéphanie Kitempo est yoga thérapeute et fondatrice de That's Yoga. Voici son témoignage. Ce jour-là, je l'attendais depuis 4 ans. J'avais déjà enseigné en milieu carcéral avant la pandémie à l'établissement de détention de Saint-Jérôme et à la prison pour femmes Leclerc. Le vendredi 7 juin 2024, je me dirigeais vers Bordeaux. 112 bougies, considérées comme la grande dame des prisons du Québec. En lisant ces premières lignes, vous vous demandez peut-être ce que j'enseigne. J'enseigne le yoga thérapeutique. Ma classe hebdomadaire sera proposée aux prévenus en attente de procès. Quelques marches à monter, et j'arrive dans un large hall où un grand Christ semble me souhaiter la bienvenue. Au bout, 3 portes pleines en fer, une par gardien. La lumière du jour se fait plus rare à chaque pas. Je rencontre un gardien qui est surpris que du yoga soit proposé aux prévenus. Et nous, les gardiens, on en aurait besoin aussi. On entre à Bordeaux soit parce qu'on y travaille, soit parce qu'on vient visiter son fils, son père, un frère, son chum, un ami. Dans le stationnement, les familles attendent dans les voitures que le parloir ouvre. Des gardiennes prévenantes. Je me présente à la grande porte. Je suis attendue. La première gardienne est chaleureuse. Mon badge pour circuler dans la prison est prêt. Pas de cellulaire sur vous? Voulez-vous mettre votre sac dans un casier? J'ai le casier numéro 10. Puis je dois passer par la sécurité, où je rencontre une autre gardienne. Elle doit vérifier mon tapis de yoga. Il va y avoir du yoga ici pour les détenus? Me demande-t-elle. Je lui souris. Que vous êtes gentille de faire ça, me dit-elle. Je lui réponds que je préfère la gentillesse à la haine. Dieu vous le rendra alors, s'exclame-t-elle. Les gardiens n'ont pas toujours bonne presse. Dans la plupart des films ou séries, ils ne sont ni très doux ni très pro-réinsertion. Ces deux femmes me donnent espoir. Je suis fébrile, non pas parce que j'ai peur des détenus, mais parce que j'ai ce souci de capter leur attention. Je veux avoir la bonne énergie. Je déroule les 16 tapis de yoga dans la salle et je place un bloc devant chacun d'entre eux. Il est 13h50 et dans 10 minutes, ils arriveront. Quand les détenus entrent, leur premier réflexe est de se diriger au fond de la classe. Je me dis que c'est le réflexe de tous, en prison ou ailleurs. Messieurs, s'il vous plaît, devant. Je ne vais pas vous faire passer un examen oral à la fin de la classe, leur dis-je en riant. Les hommes sont timides. Je leur lance, sur le ton de la plaisanterie, « Vous n'allez pas m'obliger à choisir qui va venir en avant. » L'un d'eux prend son courage à deux mains et s'installe devant moi, puis un deuxième et un troisième. Et voilà, nous sommes tous sur notre tapis. La première question que tout le monde me pose est « Y a-t-il un gardien dans la salle ?» La réponse est non. Deuxième question « Tu as peur ?» Non, je suis ici, de mon propre gré. Développer plus de douceur en soi. L'objectif du yoga n'est pas de performer, ni d'être fort physiquement. Je ne pourrai jamais compétitionner avec le nombre de push-ups qu'ils sont capables de faire. Ce que je souhaite vous transmettre, c'est une boîte à outils pour développer plus de douceur en vous, parce qu'ici, en prison, il n'y a rien de doux, il n'y a rien de beau, il n'y a rien de très harmonieux, et vous y êtes pour un certain temps. Et le seul endroit où vous pouvez développer tout ça, c'est en vous, par vous-même. Je crois que mon honnêteté me permet de gagner leur confiance et leur attention. En me lisant, vous vous dites peut-être que je suis naïve, que changer ces hommes est impossible. Je rencontre sur le chemin du retour, porte après porte, des gardiens qui trouvent que le yoga en prison est une bonne idée. C'est la dernière méditation avant la fin de la classe. Je dois être vigilante et terminer à 15h pile, mais ce n'est pas ma force de clôturer mes classes à l'heure. Une dernière expiration ensemble. Assis en tailleur sur leur tapis de yoga, les 16 détenus ont les yeux fermés. Leur respiration est à présent régulière et harmonieuse. Je les regarde. Et puis, mon namasté vient mettre le point final à la pratique. Ils ouvrent leurs yeux, expirent une dernière fois en pleine conscience, et puis se mettent à applaudir. Je retiens mes larmes de bonheur. C'était 16 détenus devant moi, un texte de Stéphanie Kitempo, paru le 2 août 2024 dans la presse.
La grande bombe des communications militaires, un texte de Jean-François Nadeau, paru le 6 juin 2024 dans Le Devoir. Comment communiquer au sein de l'armée sans être repéré et, surtout, sans être compris de l'ennemi? À l'heure du débarquement de Normandie, les services de renseignement alliés ont brisé depuis un moment les codes de la célèbre machine à crypter l'information qu'utilisaient les nazis. Baptisée Enigma, a priori inviolable, cet appareil très sophistiqué jouissait à raison dans ses différentes déclinaisons de toute la confiance de l'état-major allemand. Sur quoi les Alliés pouvaient-ils s'appuyer pour leur part? Des historiens affirment que la guerre en Europe a pu être écourtée d'environ une année parce que les secrets des communications allemandes avaient été craqués. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Ce message radio, basé sur des vers de Paul Verlaine, annonce à la résistance française que l'heure du débarquement est arrivée. Il s'agit tout simplement d'être au fait du signal pour le comprendre. Mais il en va tout autrement pour les messages cryptés, savamment codés. Énigma. Des mathématiciens de talent vont se consacrer durant des mois à casser les secrets allemands d'Énigma. Ils sont réunis à cette fin au nord de Londres, à Bletchley Park, un domaine aujourd'hui devenu musée. Là, on travaillait sous la direction d'Alan Turing, ceux qui ont cassé le code de la machine de cryptage allemande. En fait, les efforts pour briser les systèmes de communication allemands avaient débuté bien avant. Dès 1931, en Belgique, un agent double monnaie une partie des secrets d'Enigma. Une partie de l'architecture de la machine va ainsi finir par être connue des services de renseignement polonais. Des républicains espagnols, grâce à de bons cryptographes, vont eux aussi tenter de déjouer la puissante machine allemande. La mise en commun de ces informations en France, puis en Angleterre, va contribuer à percer ces secrets. Dès lors, c'est le cours de la guerre qui promet d'être changé. La bombe. Les travaux menés sur la machine Enigma par Alan Turing, mathématicien surdoué, sont aujourd'hui bien connus. La vie de ce scientifique peu banal lui a même valu d'avoir un billet de banque à son effigie, après que sa vie eut fait l'objet, sous les traits de l'acteur Benedict Cumberbatch, d'une adaptation cinématographique de « Imitation Game ». Les travaux de Turing, conjugués à ceux d'autres experts, permirent finalement de décoder les messages des nazis en trouvant des moyens dont les fondements allaient plus tard permettre l'invention de l'ordinateur. Tout cela fut mis à profit des Alliés, mais les Russes furent laissés de côté à cet égard. Seules des informations parcellaires leur furent communiquées dans l'intérêt premier des avancées alliées. À l'aide d'un dispositif appelé la bombe, mis au point par Turing et les siens, les forces alliées sont à même de déchiffrer, au moment du débarquement de Normandie, un éventail partiel des communications de l'armée allemande. Cependant, pour ne pas dévoiler cet avantage stratégique décisif, il est décidé de faire comme si de rien n'était. Dans le dessein de préparer une action décisive contre le régime nazi, les Alliés n'utilisent pas plusieurs des informations décryptées. Cela conduit en plusieurs occasions à laisser faire les opérations nazies, quitte à sacrifier des vies pour ne pas dévoiler son jeu. Cette percée décisive de l'information donnait un avantage aux Alliés, mais n'allait pas prémunir Turing contre la chasse qu'allait lui livrer l'État. Au motif de son homosexualité, Turing se verra même imposer, dans l'après-guerre, une castration chimique à la suite d'un procès invraisemblable. Les services de renseignement supposent alors les homosexuels plus susceptibles que d'autres citoyens de trahir leur pays. Turing finira par se suicider. Les secrets des langues autochtones. Comment les Alliés assurent-ils pour leur part que leur communication ne soit pas interceptée et déchiffrée? Toutes sortes de codes sont utilisés. Cependant, il est à noter que l'armée canadienne, de même que l'armée américaine, va utiliser les opérateurs autochtones pour assurer en toute sécurité ses communications. Plusieurs soldats autochtones sont engagés dans les services des communications du Canada et des États-Unis au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les langues autochtones sont considérées comme suffisamment complexes pour être réputées indéchiffrables par l'ennemi. Le dernier de ces code talkers, Louis Levy Oakes d'Akwesasne, est décédé en 2019. À titre d'opérateur radio, ils furent plusieurs à transmettre dans leur langue des messages à un autre opérateur de la même nation qu'eux. Leur message, assure-t-on encore aujourd'hui, ne pouvait être compris par l'ennemi. Les Autochtones n'occupaient pas que des fonctions dans les communications. Parmi ceux qui se retrouvent sur les plages de Normandie en juin 1944, il faut compter notamment Francis William Godden, George Orse et Tom Naftali Seti. Mais comme eux, les autres Autochtones qui voulurent s'engager se trouvèrent limités à l'infanterie, à l'instar des soldats noirs. La marine et l'aviation royale canadienne les refusaient, sauf dans de très rares exceptions motivées par des considérations particulières. Ils servirent notamment comme tireurs d'élite et éclaireurs. Plus de 4000 Canadiens d'origine autochtone ont été enrôlés au cours de la guerre, sans compter les Métis, les Inuits et tous ceux qui n'étaient pas reconnus comme tels. Dans un témoignage, le vétéran canadien Clarence Silver affirme « Lorsque j'ai servi outre-mer, j'étais Canadien. Quand je suis rentré à la maison, j'étais Indien. » Le joual au front. Il a été dit que les Canadiens français sur le théâtre des opérations pouvaient communiquer entre eux dans la langue populaire, en joual, autrement dit, dans des opérations qui impliquent des transmissions radio. Si cela a pu exister, ce n'est pas documenté, plaide Béatrice Richard, doyenne à l'enseignement au Collège militaire royal de Saint-Jean. Je n'ai pas entendu parler de cela, mais des opérateurs autochtones, oui. Pour Stéphane Roussel, professeur à l'École nationale d'administration publique, c'est logique et plausible. Roussel vient de faire paraître un livre intitulé « La Seconde Guerre mondiale, Allemands et Canadiens face à face ». Il considère comme raisonnable de penser que le joual a été utilisé, sans nécessité d'être crypté, dans les communications propres aux échanges radio entre Canadiens français. En 2004, raconte-t-il, il accompagnait une mission envoyée en observation auprès des militaires canadiens basés à Kandahar, en Afghanistan. Je faisais partie d'un groupe qui s'est rendu auprès du 22e régiment en Afghanistan. Au poste de commandement, sur le grand écran qui rendait compte des échanges entre les unités, on voyait apparaître les conversations. Il y avait des codes pour certains mots sensibles, quelques codes, mais tout le reste était en québécois. Autrement dit, tout le monde était certain que, même intercepté, personne ne serait capable de déchiffrer ces messages. C'était « La grande bombe des communications militaires ». Un texte de Jean-François Nadeau paru le 6 juin 2024 dans Le Devoir.